Tech Café, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur les nouvelles technologies. Avec nous, vous restez au courant de ce qui se passe et on vous partage nos regards critiques. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour cette émission dédiée aux présentations des produits Apple, je suis ravi de m'être entouré de deux experts, à commencer par Matt, qui en plus de co-animer avec moi le podcast ReLife, anime l'excellent Apple Différemment, un podcast dont le nom vous aura permis d'ores et déjà de comprendre qu'il parle essentiellement d'Apple. Salut Matt.
Salut, salut. Non, en fait, on parle de pommes, c'est l'automne, alors on aime ça, les golden, les lobos, toutes sortes de pommes.
Bien joué. Bientôt un épisode spécial cidre, on a hâte de voir ça, ou de l'entendre en tout cas. Et j'ai également le non moins plaisir, mais également grand honneur de retrouver celui dont les vidéos YouTube remontent systématiquement maintenant, hein, en haut des tendances, passionné de la tech et également des expériences utilisateurs d'Apple, c'est Léo Duff. Salut Léo.
Quelle présentation, salut. Bon, de toute façon, c'est plus une surprise. À chaque fois que ça parle d'Apple sur ce podcast, je suis là. Alors,
c'est
toujours
vrai,
un plaisir.
C'est devenu un rendez-vous. C'est terrible parce que il y a quelques jours, il était, enfin, il y a quelques même semaines, on avait anticipé cette keynote et puis Léo m'avait dit qu'il serait peut-être pas dispo. Alors, j'étais tout inquiet. Ça allait perdre mes habitudes. Terrible. Au sommaire de cet épisode, bon, pas de secret, hein. Si vous aimez pas les produits Apple ou si jamais vous aimez les critiquer un peu trop subjectivement, cette émission ne sera pas forcément pour vous. On va donc vous parler des produits Apple qui ont été annoncés. Qui ont été annoncées ce 10 septembre, mais aussi celles qui n'ont pas été faites, parce qu'il y a des rumeurs, quelques-unes qui n'ont pas été confirmées sur scène, vous allez le voir. Rendez-vous hein, la semaine prochaine pour ceux qui veulent retrouver Guillaume Poggiaspala et notamment quelques news autour de l'IFA et les autres actus tech. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que Tech Café est disponible en financement participatif sur la plateforme Patreon. Toutes les infos sont disponibles sur patreon.com/techcafé et nous allons accueillir avec un tapis rouge les 4 nouveaux Patriotes qui se sont joints à la foule de ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon, Lenuch, Vincent F, Delta Coche et Cornichon. Merci beaucoup à tous les 4 pour soutenir Tech Café. Et puis, on compte sur vous pour aller vous renseigner si jamais vous faites pas déjà partie de ceux qui soutiennent l'émission. Sans autre forme de procès, on va attaquer tout de suite avec toutes les news hein, qui consistent à relayer un petit peu les annonces d'Apple en cette rentrée 2019. Allez, un petit tour de piste hein, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et sans trop dévoiler les éléments qui ont été présentés. Votre sentiment global sur ces présentations en termes d'innovation, de ce que ça apporte pour la tech en général et plus précisément pour ceux qui aiment les produits de la marque à la pomme. On va commencer par toi, Matt. Comment t'as perçu tout ça?
Super agréable. Une keynote matérielle très, très plaisante à regarder avec un début sur des services qu'on va avoir bientôt, services de jeux, services vidéo, qui fait un peu, qui fait bande à part, mais maintenant partie intégrante de l'écosystème d'Apple. Alors non, moi, j'ai eu plaisir à regarder ça. Je trouve qu'il y en a eu pour tout le monde, cette keynote, autant les riches que les moins riches, on va dire.
On va en reparler justement de la gamme de produits, effectivement. Léo, comment t'as perçu un petit peu tout ça, toi?
Pas hyper emballé. Je me rends compte en fait que plus le temps passe et plus j'aime regarder les keynotes, non pas pour les annonces, mais pour la façon de l'annoncer. Je trouve qu'en termes de production vidéo, ils sont au top de leur forme. Apple, c'est de mieux en mieux. C'est toujours impressionnant. On l'a vu notamment avec la vidéo sur l'Apple Watch qui était juste exceptionnelle. Après, les annonces sont cool. Hein. C'est juste que c'est pas des mises à jour qui sont majeures. Donc c'est bienvenu, mais j'étais pas hyper emballé par tout ça.
Bah moi, tu vois, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Léo, parce que globalement, effectivement, la façon de présenter visuellement les choses est toujours très intéressante et puis ça donne un petit peu là hein, de la communication sur les produits, pas que tech d'ailleurs, mais on sent une forme de frilosité à mon sens sur la présentation des choses, quelque chose qui montre que ils sentent bien qu'ils sont plus maintenant dans des présentations où chaque année ils bouleversent un petit peu la donne des usages sur le plan matériel parce que le langage est toujours le même. On a tendance à le moquer hein, à chaque fois, l'amazing, le incredible et le tout ce que vous avez l'habitude d'entendre dans ce type de présentation. On l'a à chaque fois, un peu moins dans la WWDC où il y a des tentatives de communication un petit peu différentes, mais là c'était une communication très standard. Je pense que Apple est très conscient qu'ils ne sont plus dans les révolutions des usages, mais des évolutions incrémentielles, et c'est un petit peu compliqué de renouveler le langage. Enfin, ça, c'est ma perception, évidemment. Un petit mot aussi pour dire que c'était un peu nouveau, mais ça montre aussi peut-être la culture d'Apple qui s'ouvre à ces sujets-là. La keynote a été retransmise alors dans des Apple Store, sur YouTube en live et sur Twitter. Et notamment, il y avait la possibilité d'envoyer un petit tweet à Apple et qu'ils te répondent au moment où se lance la keynote pour te le rappeler. Moi, je trouve ça toujours cool qu'Apple utilise les autres canaux qui sont pas forcément ceux de leur écosystème sur ce type de présentation. C'est très chouette. On va va détailler un petit peu les annonces, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse tous dans cette émission. Et la première chose, ce sont les services, parce qu'effectivement, il y a eu quelques précisions sur les services qui avaient été préannoncés, mais qui ont été un petit peu redétaillés. Il y a notamment, alors maintenant on le sait, il y a une bande-annonce à chaque présentation, et donc il y a une bande-annonce d'une nouvelle série pour Apple TV+, et quelques jeux qui ont été présentés pour Apple Arcade. Le principe dans les deux cas, il est simple, c'est que vous payez un service, donc un abonnement mensuel, dont le tarif a été dévoilé à 4,99$. Je crois que c'est l'équivalent en France, je ne suis pas encore certain, mais il me semble que c'est 4,99€ aussi en France, probablement au Québec aussi avec des tarifs équivalents. Et ce qui est assez cool, je trouve, c'est les contenus originaux qui apportent un petit peu de fraîcheur et une vision complémentaire à tout l'éventail des contenus vidéo qu'on peut voir par Netflix ou qui vont arriver évidemment par Disney. Et par contre, moi de mon côté, là où je suis beaucoup plus dubitatif, c'est sur l'apport de valeur d'un service comme Apple Arcade, qui nous promet quand même des jeux relativement casual. En tout cas, ce qui a été présenté sur scène n'était pas du tout des expériences de type console, selon moi, mais plutôt du jeu de type jeu indé, voire du jeu casual. Le fer de lance pour moi, et ce qui m'a vraiment marqué, c'était de présenter Frogger, qui certes est beaucoup plus avancé graphiquement que les Frogger qu'on avait l'habitude de connaître de notre vieux temps, pour ceux qui les ont connus, mais ça restait quand même des jeux casual. Léo, c'est quoi ton regard sur les services aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur Apple TV+ pour la vidéo ou pour Apple Arcade pour les jeux vidéo. Comment tu les perçois ?
Alors, Apple Arcade, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je pense que je vais tester. Il me semble que le premier mois est gratuit, donc je vais tester ça. Il y a quand même une centaine de jeux pour un tarif qui est assez peu élevé, 4,99€ par mois. En plus, on peut le partager avec 5 membres avec le partage familial. Cependant, moi, je ne suis pas un grand joueur sur iOS, en fait. Je suis un joueur de console de salon. Sur mon iPhone, je n'ai aucun jeu. Sur mon iPad, je dois en avoir quelques-uns. Donc, peut-être que Apple Arcade, en fait, va me réconcilier avec le jeu vidéo sur iOS. J'en suis pas certain, mais à tester. Et sinon, pour ce qui est d'Apple TV+, tarif très intéressant, mais en même temps, il rentre dans un marché qui est déjà saturé. On a plein de services qu'on paye déjà. Donc, le premier mois offert, c'est une bonne chose, et l'année offerte avec pour tout achat d'un produit Apple, donc du type iPad, Mac, iPhone, je pense que c'est nécessaire parce que ça peut aussi laisser le temps à Apple d'apporter des contenus, parce que pour l'instant il y a quand même assez peu de contenu de ce qu'on sait, donc ça va leur laisser une année pour en apporter de qui veulent faire quasiment que des contenus exclusifs, il me semble.
Ouais, j'ai perçu ça comme ça également. C'est vrai que ça a été un peu la surprise. Hein. D'une part, le tarif, parce qu'effectivement, 4,99€, on ne misait pas forcément sur ce tarif pour leur service de vidéo, qui est un peu en dessous quand même de Disney+, qui va arriver, et bien en dessous de Netflix. En même temps, il n'y a vraiment pas le même catalogue, donc je pense que c'est honorable de l'avoir fait à ce prix-là. La grosse surprise, c'était l'année offerte. Matt, est-ce que tu vas rajouter ces services à l'éventail des milliers, hein? Tu peux nous le dévoiler maintenant. Tu as un bon millier de services auxquels tu es abonné aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Ben, on en débat sur Internet. Il y a des gens qui trouvent qu'on a trop de services disponibles maintenant de vidéo. Moi, je m'en réjouis parce que d'abord, ça fait marcher la concurrence. Puis deux, ben, ça fait du choix. Alors ça, c'est cool. Mais c'est sûr que ça en fait beaucoup des fois à regarder juste humainement parlant. Tu sais. Alors, Arcade, on commence par lui, Apple Arcade. J'étais très surpris dans la conférence, ces trois jeux. Parce que ce qui circule, des jeux qui sont signés officiels dans Apple Arcade, il y a des affaires vraiment, vraiment beaucoup plus chouettes que ça, que ce qu'ils ont présenté. Maintenant, il y a toujours des deals d'affaires, des contrats ou des choses qui sont faites en arrière pour dire, ben, Capcom, je te mets en avant, mais d'un autre côté, tu vas faire ci, ça ou des exclusivités pour tel jeu. Alors, j'ai pas compris le choix des trois jeux qu'ils ont présentés parce qu'il y a honnêtement, de ce que j'ai vu, qui sont signés dans les trailers et ainsi de suite, des jeux vachement plus intéressants. J'ai un début d'adolescent à la maison, alors je trouve ça super chouette de pouvoir avoir Apple Arcade et plus avoir à me soucier s'il y a de l'achat in-app. S'il y a Apple Arcade, moi, je suis vraiment content d'avoir ça. C'est accessible sur l'Apple TV, c'est sur l'iPad, c'est sur un téléphone, ce qui fait qu'en mobilité, il va pouvoir toujours jouer. À la maison, on va pouvoir switcher d'un écran à un autre pour si nous, on veut écouter les séries, ben, lui, il va pouvoir jouer sur l'iPad à continuer sa game. C'est des choses quand même, des avancées intéressantes pour ce type de jeu-là. Oui, je comprends. Oui, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ils ont présenté ces trois jeux-là, mais dans la liste de ce qu'on a vu qui est signé officiel, Arcade, vous allez avoir des jeux juste fantastiques. Alors, c'est sûr qu'ils n'en ont pas pété plein l'écran. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils pouvaient se le permettre.
Ah, j'ai failli m'endormir, moi.
Ah, ouais, 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 ouais. Non, écoute, horrible. C'était vraiment horrible ce qu'ils ont présenté, mais il y a d'autres choses vraiment chouettes qui arrivent. Apple TV+, gros boom, incroyable, d'offrir une année d'abonnement à l'achat d'un produit Apple. Ça commence à 5 $ et ce que je vous dis là pour Apple Arcade ou Apple TV va être vrai pour les deux services, c'est que si vous avez le partage familial, tout le monde l'a. Alors ça, juste ça aussi, c'est une avancée incroyable par rapport aux autres services. Et quand on dit qu'on se plaint d'avoir trop de services, ben moi, je m'en réjouis parce que vous voyez, juste ça va faire bouger un peu les choses, peut-être chez Netflix, peut-être chez Prime, peut-être ailleurs. Et ça va donner peut-être un moyen de respirer pour avoir d'autres services, moi, je pense.
Écoute, on le verra, mais effectivement, cet argument de l'abonnement familial est quand même hyper, hyper intéressant, 4,99€. On est dans des tarifs plutôt accessibles pour une famille. Alors, on va enchaîner avec, pour le coup, la partie purement matérielle. Il y a un sujet sur lequel je vous propose qu'on passe peut-être rapidement, à moins que vous ayez des choses à souligner, et c'est tout à fait possible que vous en ayez, mais c'est l'iPad version 7, qui est un iPad 6 mieux, qui a un Touch ID, mais surtout qui a un Smart Connector, donc qui permet de brancher le clavier, hein, qui fait cette espèce d'appareil hybride idéal entre l'ordinateur et la tablette qu'on connaît bien avec l'iPad Pro. L'écran gagne quelques dixièmes de pouces et puis il y a toujours la puce qui a maintenant quelques années de génération mais qui tourne toujours évidemment vachement bien, qui est l'A10 Fusion et un port Lightning, donc pas de port USB-C. Et enfin, cet iPad est compatible Apple Pencil. Moi, j'ai quand même une question. On parle souvent des gammes quand on regarde ce que présente Apple et comment s'inscrivent les nouveaux produits par rapport à l'ancienne gamme. Moi, je m'interroge quand même en termes de lisibilité sur la gamme entre un iPad Air et un iPad 7. Je vais vous faire je vais vous dévoiler un petit secret, c'est que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'il y avait une différence entre ce qui est un iPad 6 et un iPad Air. Je crois que vraiment en termes de gamme et en termes d'approche produit, on est sur des choses, je ne suis pas certain que les gens comprennent bien la différence. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à ça, que ce soit la gamme ou l'iPad en tant que tel, Léo ou Matt?
Alors, je ne vais pas beaucoup t'aider parce que pour moi, ça a toujours été un bordel sans nom, la gamme d'iPad. Et je suis nouveau, en fait, sur l'iPad. Ouais. C'est pas un produit que j'utilisais jusqu'ici. Mais juste pour, peut-être que Matt aura des précisions sur cette gamme, juste par rapport au nouvel iPad, moi, je suis très content de sa position en termes de prix. Je crois que c'est 389€.
Ouais.
Et je trouve ça extrêmement intéressant. En fait, c'est vraiment un outil que je recommande, l'iPad. Depuis que j'ai acheté l'iPad Pro, moi, je n'utilise quasiment plus mon Mac. Donc, ça ne remplace pas non plus un ordinateur pour toutes les tâches. Mais la plupart du temps, moi, j'utilise l'iPad. Donc, je recommande fortement.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que, enfin, j'avais des discussions avec des amis qui regardaient quel équipement pour leurs enfants, pour des études. Honnêtement, quand on voit le prix des ordinateurs, est-ce qu'on va pouvoir faire avec, et les possibilités avec un iPad, et la différence de prix surtout, faut vraiment se poser la question. Matt, une réaction peut-être? Je sais pas si tu continues à utiliser un iPad au quotidien, toi, Matt.
Oui, oui, absolument. C'est un processeur d'il y a 2 ans, l'A10. Ce qui est bon à savoir, c'est si vous avez acheté un iPad en 2017, vous êtes bon pour encore 5 ans supplémentaires avec votre iPad 2017, parce que le dernier qui va te sentir, c'est un A10. Si vous voulez avoir un iPad pour très longtemps, je vous recommande l'iPad Air, qui est un A12, qui est un processeur vraiment supérieur, qui va vous permettre de jouer à des jeux un petit peu plus évolués. Je pense que l'iPad qu'ils ont présenté hier ne tape pas du tout chez nous, nous trois, quoi, à qui on... nous trois présentement, c'est pas du tout la clientèle cible, c'est vraiment la clientèle, on va dire, étudiante, parce qu'ils ont vraiment spécifié le prix pour les étudiants. On va dire c'est la clientèle qui cherche un Windows parce qu'ils l'ont montré, un Windows à rabais, pas cher, cheap un peu. C'est vraiment pour taper dans les Chromebooks, c'est vraiment pour dire, aujourd'hui, si vous voulez un device sécuritaire simple à utiliser, le moins cher de tous, c'est iPad. Et c'est vraiment l'entrée de gamme. Puis après ça, vous allez pouvoir peut-être évoluer à consommer des services. Ils n'ont pas le choix de faire ce genre de sacrifice-là. Ils l'ont fait pour iPod. Ils le font pour l'iPad aussi, d'entrée de gamme. C'est vraiment des produits d'appel pour après ça rentrer dans l'écosystème. Et très malin. C'est un très bon produit, mais moi, qui risque d'être plus grand. L'écran va être plus grand que celui de 2017, mais un petit peu plus petit que celui du Air, il me semble. Au niveau du processeur, évidemment, il est en dessous. Au niveau de la batterie, il est en dessous. Mais c'est quand même un excellent produit. Et je m'excuse, il n'y a aucune tablette qui peut battre l'iPad en ce moment sur le marché. Et je continue à l'affirmer.
Exactement. Et pour faire une transition, tu parles de produits d'appel. C'est une stratégie qu'on retrouve avec l'Apple Watch série 3, qu'ils ont annoncé comme RS dans le catalogue, et à un prix aussi extrêmement intéressant.
Bah écoute, je me jette dans ta transition. Merci beaucoup Léo. Effectivement, l'Apple Watch série 5 qui a été présentée sur scène. Pour la présenter très rapidement et très simplement, c'est la même Apple Watch que la série 4 qui a été présenté l'an dernier et qui a été mise à disposition avec le même design, y compris d'ailleurs le même design matériel, puisque à l'intérieur c'est la même, c'est le même processeur. Il n'y a pas d'autres processeurs qui aideraient à capturer des éléments en soulageant le processeur principal. Donc ça fonctionne comme avant, même puissance. Il y a deux choses, mais qui peuvent être assez clés, dont une, c'est le fait que l'écran sera désormais toujours allumé, donc de l'always on display. Et quand on entend ces mots, on pense spontanément au smartphone qui propose d'allumer en permanence l'heure avec quelques pixels allumés en blanc avec un écran OLED qui consomme pas beaucoup. Là, ça va à mon sens quand même plus loin, c'est que c'est le même cadran que ce que vous avez l'habitude d'avoir sur votre Apple Watch, et donc vous pouvez le configurer comme d'habitude. Il évolue, en gros les montres tournent et les informations se mettent à jour, mais l'écran est un petit peu moins éclairé, il est un peu moins lumineux, et quand vous faites le geste que les porteurs d'Apple Watch connaissent bien, qui est celui de porter le cadran à votre regard, l'écran s'allume à sa pleine luminosité. Mais vous avez donc pas besoin en permanence d'orienter l'écran vers vous, comme c'est le cas aujourd'hui pour toutes les Apple Watch, pour voir les informations, puisqu'il suffit effectivement que vous l'ayez, que vous jetiez un regard, quelle que soit la position de votre montre, pour que vous puissiez voir les informations. Et ça change probablement beaucoup de choses. Je sais que c'est un truc qui t'a vachement parlé, Léo.
Oui, ça change beaucoup de choses dans le sens où ça devient l'Apple Watch devient encore plus une vraie montre, parce que c'est vrai que pour l'instant on avait juste l'impression de passer pour quelqu'un qui a une montre qui est déchargée. Donc, donc là pour le coup d'avoir une montre avec un cadran, etc., c'est sûr que ça fait de l'Apple Watch encore plus une vraie montre qu'elle ne l'était. Après, je pense que c'est la mise à jour la moins intéressante qu'on ait eue de toutes les Apple Watch, dans le sens où la nouveauté est bienvenue, mais il y en a pas énormément. Ça m'empêche pas de l'avoir précommandée, mais c'est sûr que si vous avez une série 4, aucun besoin de changer cette année.
Ou d'être un power user et d'être vraiment embêté régulièrement par le fait de ne pas voir les informations quand vous regardez votre montre, effectivement. Un point important, c'est que ce Always On, il n'est pas au détriment de l'autonomie. Ils nous promettent une autonomie qui tient encore une fois toute la journée.
Max, 18 heures.
Voilà, bon, 18 heures, ce qui effectivement au quotidien est je pense largement suffisant. Et les détracteurs qui disent oui, mais moi une montre, il faut que ça tienne au minimum plusieurs jours. Et vous êtes quelques-uns à le dire, je le sais. Je partage pas forcément cet avis, parce que tous les soirs, moi la montre, je l'enlève et je la mets à recharger. Et ça me gêne pas du tout de dormir sans. Matt, tu es un heureux possesseur d'une série 4. Comment tu te positionnes et quels conseils tu donnerais autour de toi si jamais quelqu'un voulait te demander tiens Matt, quel Apple Watch devrais-je choisir?
Ben, si vous tombez sur un rabais incroyable dans le magasin sur une série 4, vous vous jetez dessus. C'est sûr que c'est un bon produit qui va être là pour longtemps. Si vous voulez un produit neuf, mais que vous n'êtes pas sûr un peu de l'expérience d'avoir une montre connectée, je vous recommande la Watch série 3. Mais sinon, je pense qu'elles se valent toutes encore maintenant en termes d'usage. Il n'y a pas des usages transcendants. Vraiment. Si, par contre, vous êtes soucieux et que vous avez des enjeux par rapport à votre santé, parce que c'est ça l'important d'une Apple Watch, par rapport à votre santé, par rapport à ne serait-ce qu'avoir des personnes âgées dans votre entourage qui, vous avez peur qu'ils chutent, vous avez peur qu'ils aient besoin d'aide, qu'ils ne savent pas téléphoner ou quoi que ce soit, ben la série 4 en montant, c'est vraiment des bons choix, très bon produit. Puis j'imagine que tu vas en parler, mais moi ce qui m'a sauté aux yeux quand ils ont présenté l'Apple Watch, c'est tout l'aspect santé et études là qui commence à apporter chez Apple. C'est assez impressionnant.
Ouais, effectivement, on va en parler un petit peu. Il y a juste avant de s'enfoncer effectivement dans ce sujet, je vous remercie tous les deux de faire ces super transitions. Moi j'ai trouvé quelque chose en termes de com qui était fantastique, et je pense pouvoir être assez objectif quand je l'ai vu. Il n'y a pas que mon côté fanboy qui a parlé, c'est toute la vidéo sur l'Apple Watch où ils enchaînent le fait que c'est une montre, elle donne l'heure, mais elle fait aussi ceci. Et j'ai trouvé cette vidéo assez géniale parce que c'est souvent la remarque qu'on peut avoir de la part de personnes qui sont un peu détracteurs de ce genre de produits, y compris d'ailleurs de montres connectées sous Android Wear qui seraient des concurrent éventuel d'Apple Watch, mais c'est de dire ouais, enfin bon, est-ce qu'elle donne l'heure ta montre, comme on disait d'ailleurs au temps des premiers smartphones, et en plus tu peux téléphoner, c'est ça. Et j'ai trouvé cette com hyper bien faite parce que ça montre effectivement tout l'éventail des choses qui peuvent se raccorder à ce type d'appareil, qui est évidemment plus qu'une simple montre qui donne l'heure. Et évidemment il y a tout l'aspect santé et Apple qui ouvre une nouvelle application qui va être disponible notamment aux États-Unis dans un premier temps sur la recherche et donc dans la collecte de données dans lesquelles on va pouvoir s'enrôler. Évidemment, avec le cachet Apple qui est celui de respecter vos données à caractère personnel, mais pour autant de capitaliser sur toute une masse de données de santé pour aider la recherche. C'est quelque chose qui t'a pas mal parlé, c'est ça, Matt?
Ben oui, écoute, ben d'abord, il y a deux trucs là-dedans. En arrière des corps, c'est Jeff Williams qui déclare ça. Jeff Williams qui est pressenti pour peut-être un jour remplacer Tim Cook. Alors ça, déjà, juste là, tu vois que le gars se positionne dans la branche qui va probablement parler longtemps chez Apple, la santé, tout ça. Moi, c'est ce message-là que j'entends. C'est, ben, on s'associe pas avec n'importe qui. On parle d'Harvard, on parle de l'Université du Michigan, on parle de l'Université Brigham pour des études en lien avec la santé du cœur, la santé des femmes, la santé en général. Trois grosses études, on va avoir des résultats de ça. C'est vraiment plus qu'une montre connectée, c'est vraiment un écosystème, un langage qui commence à perdurer chez Apple. C'est que c'est pas juste un objet connecté, c'est aussi un objet qui peut sauver des vies. On le voit dans la présentation, c'est émouvant, ça a sauvé des vies, ça a sauvé la naissance d'un enfant. On joue sur l'émotion, mais à fond, et c'est la vertu. On peut pas être contre. Et c'est ça qui est incroyable avec l'Apple Watch, c'est la vertu qui touche, et ils ont pas tort.
Moi, je me rappelle avoir fait l'erreur quand la première Apple Watch était sortie. Je n'avais pas vu les aspects santé et sport qui étaient pourtant disséminés, hein, ça et là. Mais j'avais vraiment retenu l'aspect luxueux et je m'étais dit vraiment martelé à ce moment-là, c'est un produit de luxe. Je crois que ça a été maladroitement amené aussi de cette manière-là en signant avec des partenariats Hermès qui sont renouvelés, hein, avec des bracelets hors de prix. Et puis, il y avait déjà la première version en or, complètement hors de prix. Je pense que les gens qui ont acheté ça à l'époque doivent s'en mordre les doigts. Je suis même pas certain que sur le marché de l'occasion et de la collection, ça vaille tant le coup que ça. Mais qu'est-ce que c'est malin d'apporter là aussi le service, même s'il n'est pas payant, de l'information autour du sport et de la santé qui touche objectivement beaucoup plus de monde que le luxe et qui effectivement permet de faire adhérer plein de monde. On est tous très enthousiastes, allez, est-ce qu'on peut continuer à critiquer un petit peu l'Apple Watch pour essayer d'être un peu objectif? J'ai envie de vous inviter à cet exercice, Léo et Matt, mais je sais que vous êtes déjà très partisans du sujet, mais c'est vrai qu'on voit quand même des montres connectées qui ont une autonomie de plusieurs jours, qui ont des interfaces qui sont plus variées que l'Apple Watch. Malgré tout, vous êtes complètement fan de l'Apple Watch et pourquoi, Léo?
Bah, très honnêtement, je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels Apple a très peu de concurrence. C'est la tablette, Matt, tu le disais tout à l'heure, et la montre connectée. Pour le coup, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont essayé des montres connectées, Samsung, etc. Et à chaque fois, je leur disais, mais pourquoi tu fais chier avec ça? Et vraiment, et en fait, ils ont testé depuis l'Apple Watch, ils m'ont dit, bon, ok, t'avais raison. Parce que je sais pas ce que fait Apple de ce qu'ils font de mieux, mais c'est peut-être du logiciel, ils sont très forts dans le logiciel. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du hardware, mais dans le logiciel, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez les autres. Rien que les cadrans, quand je regarde les cadrans, par exemple, sur les Samsung Watch, etc. Je trouve que ça marche. C'est les Samsung Gear, je crois. Ça marche pas très bien. J'ai l'impression qu'ils font des cadrans, qu'ils font une montre en essayant de faire en sorte que ce soit une vraie montre, que ça ressemble surtout pas à une montre connectée. Et pour moi, ça ne fonctionne pas en fait, parce que c'est une montre connectée. Je pense qu'il faut l'assumer. Apple le fait très bien et ça donne un produit que je recommanderais pas à tout le monde parce que c'est pas un produit indispensable. On va pas se le cacher. Mais dans ce cas-là, n'en achetez pas du tout si vous avez peur de devenir accro, parce que je peux plus l'enlever aujourd'hui. Ne serait-ce que pour payer, je paye tout le temps avec Apple Pay. Ouais. Ne serait-ce que pour recevoir mes messages, mes notifications, répondre aux messages avec Siri, etc. Vraiment, c'est un produit qui est totalement dispensable, mais qui le devient indispensable.
Matt, rien à ajouter sur l'Apple Watch?
Mais l'Apple Watch en elle-même n'est pas indispensable, tu le dis, Léo. Mais l'Apple Watch, c'est le seul produit chez Apple que tu as besoin d'avoir un autre produit pour faire fonctionner. Et c'est là où tu vois la force d'un écosystème.
Les AirPods aussi,
c'est là,
on va dire, dans une autre mesure. Mais bon.
Les AirPods, tu peux les faire fonctionner sur...
C'est pas tout à fait la même
chose. C'est plus les HomePod. Mais les Apple Watch, c'est le seul produit où tu as besoin d'un autre produit Apple. Et c'est là où tu découvres, l'intelligence d'un écosystème, le fait d'adopter un écosystème. Alors, certains, pour aucun, diront, tu es pris dans un écosystème. Moi, je pense que oui, tu es pris, mais tu as beaucoup de foutus bons avantages qui fait que, en bout de ligne, tu vois les avantages et je pense que c'est un des secrets de l'Apple Watch. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour une des rares fois, On va pouvoir maintenant choisir sa montre avec son bracelet dans tous les magasins. On va jusqu'à 1000 personnalisations possibles au niveau de l'Apple Watch quand vous allez pouvoir l'acheter. Que le connecteur de l'Apple Watch maintenant va sortir en USB-C. Alors, pour ceux qui sont des fervents de l'USB-C, vous allez pouvoir brancher ça dans vos Macs. Il n'y aura plus besoin d'adaptateur, ça, c'est chouette. Et puis, je suis désolé de le dire, mais on voit le début d'Apple avec l'Apple Watch puis toute cette personnalisation-là, le début d'Apple sans Johnny Ive. Johnny Ive est parti. L'emblématique personne qui designait du début jusqu'à la fin, apparemment, les produits Apple est parti il y a quelques mois. Et là, on est dans un mouvement de se rapprocher de la personne, de la santé, de la personnalisation. L'Apple Watch, c'est un peu, je pense, ça. Parce que tu disais au début, ça a été vendu comme un produit de luxe, très Jonathan Ive. Mais maintenant, c'est un produit d'appel, même pour d'autres sous-produits, pour la santé. Il y en a qui veulent avoir un suivi médical. Et s'ils ont une watch, c'est la meilleure. Mais s'ils ont une watch, ça prend un iPhone. C'est toute cette stratégie-là qui est vraiment chouette, moi, je trouve, avec Apple Watch pour Apple, mais aussi pour ceux qui en possèdent.
Merci. Voilà, j'espère qu'on l'a assez défoncé pour toi.
Ouais, je savais que c'était perdu d'avance, hein, mais j'essaye, hein, tant soit peu, de montrer qu'on est objectif. C'est compliqué parce qu'on est tous les trois aussi très fans. Je pense que vous le savez maintenant. Allez, on va enchaîner avec le dernier gros, on va dire, chapitre de cette présentation. Et là aussi, il y a des choses à dire, et pourtant pas forcément de révolution, mais il y a vraiment des choses à dire. C'est que l'iPhone 11, successeur de l'iPhone 10S, a été présenté. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour une fois, je vais présenter les deux grosses gammes d'un coup. Il y a donc l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max qui sont les gammes supérieures. Et je fais cette petite précision parce que là où on nous avait annoncé l'iPhone 10R et l'iPhone 10S comme étant en gros le 10S, le fer de lance, le remplacement du 10, un peu l'emblématique iPhone, et le 10R comme une version un peu au rabais, notamment je pense que le nom a aussi apporté cette notion-là, et je parle bien de perception et non pas des usages, là les choses sont un petit peu renversées, c'est-à-dire que le successeur du 11R et vraiment même son évolution, c'est l'iPhone 11, point. Il n'y a pas de R, il n'y a pas d'artifice de communication qui montrerait que c'est une sous-version ou une sous-gamme. Et en revanche, la version 11 Pro, c'est la version haut de gamme qui va finalement remplacer le 10S et le 10S Max dans les deux versions avec le grand écran et le petit écran, alors OLED, etc. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que en termes d'approche, ça donne vraiment l'impression qu'il y a une gamme qui est plus cohérente. Là où avant, il y avait cette espèce d'emblème de l'iPhone super cher et en dessous l'iPhone au rabais. Donc ça, c'est un petit peu sur la manière de présenter la gamme des produits, en sachant que l'iPhone 8 continue à être commercialisé, le 10R aussi d'ailleurs. Et par contre, on peut s'attarder un tout petit peu sur ce qui change. Donc dans le cadre de l'iPhone 11, il y a donc des couleurs similaires à l'iPhone 10R, mais avec un traitement au vert derrière, qui est là présent sur tous les nouveaux iPhones de cette année, ce traitement au vert où il y a le petit bloc photo qui est un petit peu découpé dans la surface arrière du vert, qui a l'air très sympa, un rendu peut-être un peu plus mat et pas d'aspect vraiment brillant comme on pouvait l'avoir sur les iPhones de l'année dernière sur l'arrière des appareils. Deux lentilles pour le 11 et trois lentilles pour le 11 Pro et le 11 Pro Max. J'ai du mal à jongler avec les marques, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, vous pourrez rebondir dessus. Et avec la lentille complémentaire pour le 11 qui est un super grand angle. Donc, grosso modo, c'est un objectif qui va vous permettre de capturer plus d'informations, comme si vous étiez soit plus en arrière ou avec des yeux qui vont plus sur les côtés, si on doit essayer d'en faire une image. Et évidemment, ça donne un caractère graphique très différent aux photos. Un mode nuit qui est, d'après la présentation, très convaincant. Il faudra évidemment attendre les tests pour se rendre vraiment compte de ce que ça donne, mais qui là pointe du doigt le Pixel 3 qui est reconnu pour ses qualités photo et notamment ses qualités photo en basse luminosité voire de nuit. Donc là on espère évidemment qu'il y aura une mise à niveau des performances sur la photo. On peut aussi rajouter des modes d'exposition qui en gros sont des modes notamment pour le Pro qui sont une succession de prises de vue avec différentes durées d'exposition, et donc il va mixer tout ça pour faire une photo idéale. Ils appellent ça le Deep Fusion. Je crois que c'est une fonctionnalité qui va arriver un petit peu après. C'est en gros comme du HDR, mais sur des temps d'exposition différents. Des transitions entre les différentes prises de vue avec les différents objectifs qui n'est pas saccadé comme aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez un iPhone avec deux lentilles et que vous passez du x1 au x2, il y a cette espèce d'à-coup qui se perçoit tout de suite. Et là, les éléments sont calculés en parallèle. Donc, la transition est beaucoup plus souple. La caméra avant qui devient une caméra à 12 mégapixels en grand angle et qui est capable de filmer, oui, mesdames et messieurs, en 4K slow motion, donc avec des super ralentis. Je pense qu'effectivement, il y aura matière à s'amuser là-dessus. Je pense qu'il y a des vidéos d'éternuements en slow motion qui vont pulluler sur les réseaux sociaux. C'est le même écran LCD, un petit peu évolué, mais de la même taille. Grosso modo, c'est l'équivalent du 10R, un excellent écran LCD. Et une puce A13 bionique dans tous les cas, qui a comme vertu d'apporter une puissance de calcul plus importante. On en reparlera avec Guillaume Poggiaspala, mais surtout une capacité à moduler ses calculs de manière assez impressionnante, puisque dans le cas de certains travaux de type machine learning ou de calcul graphique, ou même sur des travaux où on consomme moins de puissance, tout ça est très optimisé de manière à gagner beaucoup en autonomie. On nous dit une heure d'autonomie de plus pour l'iPhone 11 versus le 10R, mais... Alors, je me rappelle plus, c'est 3 heures, non, c'est même 5 heures, je crois, de plus pour le 11 Pro et 11 Pro Max en particulier par rapport
5 heures de plus 10S. Que le 10S voilà. Max, oui.
Voilà, c'est ça, 5 heures de plus qui est, à mon sens, monstrueux et qui ne se justifie pas que par une batterie largement plus grande. Donc, en résumé, un 11 qui va plaire à ceux qui veulent le nec plus ultra de l'iPhone sans pour autant avoir des besoins de production, et le mot Pro qui est adossé à l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, qui, je trouve, a du sens parce qu'on nous a montré aussi dans la présentation beaucoup d'usages de tournage vidéo, et là on positionne l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max comme vraiment des outils de production vidéo sur lesquels par certains aspects beaucoup de caméras et beaucoup de réflexes n'ont pas grand chose à envier. J'ai livré beaucoup de choses, mais il y a peut-être aussi plein de choses que j'ai oubliées, mais rapidement vos sentiments et vos compléments, surtout Léo, l'iPhone de 2011, bon cru, mauvais cru, comment il s'inscrit dans la gamme?
Qu'est-ce que j'aime cette gamme, je la trouve parfaite ou quasiment parfaite, je sais pas trop ce qui lui manque, mais c'est la première année où je me dis que l'iPhone 11 est que le smartphone qui est le plus haut de gamme est peut-être pas l'iPhone le plus intéressant en termes de si on prend en considération le prix, l'iPhone 11 est exceptionnel. L'iPhone 10R était déjà très bon, je le recommandais fortement, c'était un excellent iPhone, mais il lui manquait encore quelques fonctions, etc. Là, cette année, on a un iPhone qui est premium, ils ont changé le nom et il mérite totalement le titre d'iPhone 11, c'est plus le petit frère d'un autre iPhone, c'est vraiment l'iPhone de l'année. Et vraiment, si on en a besoin, si on veut le sur premium et qu'effectivement tu le disais, on a besoin de production vidéo, etc., on va aller chercher celui qui est à 1159€, je crois. Mais pour 809€, l'iPhone 11 est un excellent choix. Il manque vraiment pas grand chose par rapport à l'iPhone 11 Pro. Donc, moi personnellement, je vais prendre le Pro. Parce que je suis Léo Duff, mais honnêtement, je pourrais très bien prendre l'iPhone 11.
Le petit reproche, allez, qu'on pourrait faire, c'est que je sais que les grands formats sont parfois un peu rédhibitoires, hein, selon les usages, notamment le Max, mais même le 11 et le 10R, du coup, qui sont grosso modo dans la même taille, sont quand même des gros appareils, je trouve, et si on veut un iPhone pas trop gros, mais performant, on est obligé de se tourner vers le 11 Pro, ou de se rabattre sur le 8, donc pas dans sa version grande, mais qui continue donc, comme je le disais, à être commercialisée en 4,7 pouces d'écran Retina. Ça, c'est un petit regret que je peux avoir. C'est une réserve sur la gamme, quoi. Matt, toi aussi, réaction, vers quel appareil il faut se tourner dans cette gamme?
Si vous avez vraiment besoin d'un iPhone, parce que le vôtre ne peut pas passer à la nouvelle génération d'iOS 13 et que pour des raisons de sécurité, vous préférez avoir le nouveau système d'exploitation, vous avez effectivement beaucoup de choix. Si vous n'êtes pas une personne très exigeante, mais qui veut quand même un iPhone qui va durer assez longtemps, moi, je recommande le XR, qui est quand même un bon prix, assez intéressant, qui est encore très, très valable, qui va encore très bien faire. Si vous voulez le top, évidemment, le 11, et puis si vous êtes un maniaque et ou que vous vous appelez Léo Duff, forcément aller dans le Pro. Ça, c'est sûr. Mais ce que j'ai remarqué, et je ne sais pas si j'ai pas pris le temps de le faire, mais ce que j'ai remarqué, c'est que pendant la présentation, le temps qui a été mis pour tous les autres produits versus la qualité de photo, le type de photo, tout ce qu'on peut faire en termes de photo dans la présentation, me semble que c'est assez égal entre toute la conférence versus la photo, la
photo
qualité
et vidéo,
de photo.
On va dire.
Ouais, photo, vidéo, on va dire. Exactement. Et ça, je l'ai remarqué. J'ai trouvé ça assez stupéfiant qu'on parle tant de la qualité de photo d'un appareil téléphonique qui peut faire de l'Internet, qui peut faire plein d'autres choses que juste de la photo. C'est clair que c'est un usage important d'un téléphone, mais c'est quand même pas tout le temps juste cet usage-là. Alors,
ouais,
c'est ça, je me questionne.
Presque la seule innovation des iPhones maintenant, c'est toujours de l'amélioration dans la photo, un nouveau capteur, etc. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il comble un peu avec cette fonction-là.
Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans la conférence, il y a plein de petits trucs, de petits détails. J'aime ça, moi, ces sous-détails-là. Le sous-texte qui disait que maintenant, Apple a comme réglé la qualité du verre et qu'il est maintenant beaucoup plus solide. Et pendant la présentation, on a vu un iPhone tomber par terre, ouais, se faire brinque-baller dans une sacoche, dans un sac, je veux dire, et ainsi de suite. J'aurais voulu le savoir parce que c'est quand même super intéressant ça pour les possesseurs d'iPhone que ben le verre est vraiment plus supérieur. J'aurais voulu voir des tests, j'aurais voulu voir des trucs parce que je pense que ça intéresse aussi les possesseurs d'iPhone de quand tu dépenses autant d'argent de savoir qu'il va avoir une durabilité intéressante. J'ai trouvé intéressant aussi qu'à chaque produit on parle de l'aspect écologique, de l'aluminium 100% recyclé. Clin d'œil parce que cette technologie-là a été développée avec des gens du Québec. Alors moi, je suis un petit peu content quand on parle d'aluminium et du recyclage de l'aluminium d'Apple. J'ai trouvé ça assez impressionnant qu'on parle d'autant de trucs. Bon, il y a des choses qui manquent. Dans les rumeurs, on avait entendu parler d'une recharge inversée pour les écouteurs de Léo. Alors ça, je me suis questionné. Chargeur aux grandes capacités 18 watts. Si Apple est rendu à faire du chargement rapide, ça veut dire qu'ils maîtrisent bien la durabilité des piles, des batteries qu'ils mettent dans leur appareil de téléphone. Ça veut dire que là, ça va marcher et que ça va être durable. Bon, aux États-Unis, ce que vous n'avez pas en Europe, c'est qu'Apple fait des plans de paiement pour les iPhones. Tu peux avoir un iPhone à temps par mois et c'est un plan d'upgrade automatique. C'est-à-dire que si tu as le iPhone 8 puis que le nouveau arrive, le X, ben mauvais exemple. Si tu as le 10 et que le 11 arrive, automatiquement, tu vas pouvoir upgrader pour pas très cher. Ce qu'ils ont ajouté dans ces nouveautés-là, c'est que le Apple Care Plus va rester tout le long de ton appareil, de ton téléphone. Ça veut dire qu'au niveau durabilité, Apple a travaillé fort sur des verres plus intéressants, des batteries plus intéressantes, mais aussi une expérience de soutien, de support à leurs utilisateurs avec du Apple Care Plus illimité. C'est des choses comme ça que je trouvais tellement plus pertinentes. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent l'appareil photo, mais je trouve que j'aurais peut-être ajouté ces affaires-là. C'est des choses qu'on revoit seulement sur le site web. Alors ça, c'est cool. Autre truc qui est cool, il y a la nouvelle puce U1 sur les iPhone 11 qui va nous permettre, peut-être qu'à terme, d'avoir des trackers style à la taille pour retrouver ses clés, retrouver ses trucs et pour mieux diriger, mettons, le... Il y avait plein d'autres trucs. Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur les photos et peut-être trop, à mon goût. Mais vraiment cool, la gamme.
Moi, je pense que la raison pour laquelle ils se sont autant attardés sur la photo et la vidéo, c'est que ça reste des arguments convaincants et sur lesquels les gens sont assez d'accord, je pense, c'est de reconnaître que ça devient un outil de production professionnel pour de la vidéo. Je crois que depuis la WWDC, moi, ce qui m'a marqué, j'ai peut-être dit un W de trop, bref, ce qui m'a marqué, c'était le fait que Apple clairement préparait l'après-iPhone. Ça a été leur fer de lance, ça continue à être une source de revenus très importante pour eux, mais pas que financièrement, hein. Je pense que c'est une source de revenus d'image d'ailleurs, parce que qui ne connaît pas Apple grâce aux iPhones aujourd'hui ? Oui, effectivement, il y a l'historique Mac, il y a macOS, il y a l'iPad pour les utilisateurs, mais l'iPhone est un objet qui s'est inséré dans le quotidien et qui est emblématique, presque autant que les AirPods, Léo. En tout cas, ils ont présenté les successeurs de l'iPhone, l'après-iPhone, notamment au travers des services. L'avenir est au service, c'est aussi ça qui va leur faire des relais de croissance. Mais ils ont dit aussi que l'iPhone tel qu'on le connaît, ok, on a entendu, c'est plus des choses sur lesquelles on va pouvoir convaincre forcément les gens, on va essayer de continuer à faire une gamme qui permette de répondre parce que ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. lendemain, les achats d'iPhone, mais on va aller les positionner un petit peu plus loin. On va ouvertement les mettre dans énormément de séquences avec des manettes de maintien stabilisées, avec des accessoires où on peut rajouter des éclairages. Combien de personnes font des vidéos aujourd'hui avec un iPhone et tout un système de poignées qui augmente encore la stabilité de la prise de vue et l'ajout d'accessoires de type ajout de lumière, captation de son? Je pense qu'ils sont allés aussi sur ce terrain-là de dire on a les services, on a l'historique iPhone, mais on va aussi le pousser plus loin en termes d'outils de production. Je pense que pour moi, c'est l'après-iPhone qui se présente et paradoxalement, ça passe en partie par l'iPhone. Quelques petits mots hein, d'ailleurs en complément, j'ai vu passer cette news qui m'a marqué, mais bon, c'est quelque chose qu'on sentait déjà un petit peu, c'est les ventes d'appareils photo qui continuent à chuter. Donc vous avez les graphiques avec les chiffres dans les notes de l'émission, mais en gros année après année on voit la courbe qui baisse. Là où ça baisse pas trop et où ça semble se tasser, c'est sur les réflexes et justement les outils de captation professionnelle. Et pour combien de temps, puisque quand on voit que les smartphones tels que l'iPhone et même d'autres appareils hein, haut de gamme permettent de faire des captations avec des prises de vue très performantes. Je pense que ça aussi, ça va rentrer en affrontement.
On n'a pas parlé de 3D Touch.
Alors, il y a effectivement les grands absents, on va les lister vite fait, et puis je vais te laisser dérouler. Il y a pas de tracker, parce qu'on avait beaucoup parlé, à la taille, comme tu le disais, Matt. Pas de fonction sommeil, moi honnêtement, j'y croyais, peut-être que ça va venir dans des mises à jour. De recharge inversée, tu l'as dit, Matt, ou de pencil sur smartphone, alors ce sur quoi moi je ne croyais pas trop. Mais effectivement, il y a un outil que j'utilise au quotidien et qui risque de manquer à terme, c'est Force Touch. Effectivement, quelques mots, Léo.
Je suis en deuil. Je trouve que c'était que cette dimension ajoutée à l'usage de l'iPhone était très intéressante. Alors effectivement, elle n'était pas hyper développée dans les applications, etc. Les développeurs sont un peu passés à côté de cette nouveauté. Mais ne serait-ce que faire un petit 3D Touch sur une application pour aller directement à la notification, pour envoyer un message à telle personne, etc. Plutôt que de laisser appuyer, ce qui pour moi retire complètement l'intérêt du truc. En fait, c'était cette rapidité d'action qui m'intéressait. Donc là, il va falloir moi j'aimais beaucoup cette fonction, elle n'a pas été comprise par énormément de gens. Il y a d'ailleurs plein de gens qui n'ont jamais remarqué que ça existait, et c'est peut-être sa force en fait, mais c'est ce qui l'a tué au final.
Moi, ce que je vais regretter le plus, je crois, dans Force Touch, c'est cette capacité à se déplacer n'importe où, effectivement, dans le texte qu'on envoie chez quelqu'un, où tu positionnes ton curseur avec, une fois que tu as compris comment ça marchait, c'est génial. Et j'ai testé avec les nouvelles versions d'Aptic Touch sur la barre espace, là, ça fait quand même pas le même job, effectivement. Matt, technologie sur laquelle il va falloir se mettre une croix à raison, certes, mais avec un peu de tristesse aussi.
Non, je l'utilisais pas. Je l'utilisais simplement pas. Je pense que vous vous égarez, messieurs. Vous avez oublié la technologie Slow-Fi qui va vraiment. Ça, vous en avez pas parlé avant de terminer pour l'iPhone. La vidéo était très, très hilarante. On se doutait que ça allait être une catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est Slow-Fi? C'est d'être capable de faire des vidéos en slow motion à partir de la caméra frontale du téléphone pour faire des selfies. Ils ont inventé le terme Slow-Fi. Je trouvais ça drôle juste de le dire avant de terminer.
Oui, alors c'est vrai que la vidéo était drôle. J'ai arrêté de rire quand j'ai lu Slow-Fi. Vraiment.
Mais sinon, fallait s'arrêter à la vidéo drôle, ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça va pulluler sur les réseaux sociaux, les vidéos de profil où les gens éternuent en slow motion, quoi. J'en suis à peu près persuadé. Pour le bien de la santé microbienne de ce qui va arriver sur les écrans. Une hausse des tarifs des logiciels peut-être pour servir de enchaînement avec la rubrique en bref. C'est une petite info qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec la présentation Apple, mais une étude qui montre qu'en 10 ans, le prix des logiciels a augmenté de 62% pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des prix de logiciels qui, et notamment dans le secteur professionnel d'applications qui ont pignon sur rue, qui ont augmenté énormément leurs tarifs, mais aussi parce que il y a toute cette ère de services. Donc je trouvais ça intéressant aussi de relever que les applications qui sont maintenant payées à l'abonnement et non plus à l'achat en une fois contribuent à faire augmenter le panier moyen qu'on a dans l'achat des logiciels. Alors peut-être que c'est pas la seule explication, il y a une corrélation sur le fait qu'on est de plus en plus digitaux, on utilise de plus en plus d'apps et de différents services, mais je pense aussi que les abonnements ne sont pas neutres là-dedans, et quand on voit les abonnements auxquels peut-être on va continuer à souscrire avec Apple TV Plus et les jeux sur iOS, bah ça en dit long aussi sur nos dépenses à venir. Il va falloir faire attention à les contrôler. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour sur les présentations de ce 10 septembre, Léo ou Matt, vous aviez une ultime chose à souligner ?
Écoute, on garde peut-être pour les bonus. On peut peut-être parler plus longuement des Slofi.
Oui, Slofi, on y va.
On va en reparler. Non, allez, on va.
Non, honnêtement, c'était une bonne conférence. Il n'y a rien qui m'a vraiment excité. Moi, ce que j'attendais surtout, c'était l'Apple Watch. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais juste pour cette année, j'avais envie de passer de ma petite aluminium à l'acier. Donc, je voulais voir ce qu'elle allait donner. Il n'y a pas énormément de choses. Mais voilà, c'était vraiment ce qui m'intéressait cette année. Je vais prendre l'iPhone cette année aussi, l'iPhone 11 Pro. Mais honnêtement, il n'y a rien qui me... Ça ne me rend pas fou. C'est juste, voilà, si vous voulez le meilleur iPhone, bah, c'est le meilleur iPhone qui existe, comme le dirait très bien Apple. Voilà, il est cool. C'est une mise à jour très, très sympa, mais il n'y a rien qui m'excite particulièrement.
Et j'en profite quand même pour toutes les personnes qui ont tenu, alors toutes les personnes qui n'aiment pas Apple et qui ont tenu jusqu'à ce niveau-là de l'émission. Bon, déjà, je vous félicite, vous avez un badge spécial d'endurance. Et surtout, peut-être si vous ne connaissez pas, ce serait bizarre, mais si vous ne connaissez pas bien Léo ou Matt, sachez que ce ne sont pas que des purs fanboys et ils peuvent être très critiques aussi sur les produits Apple. D'ailleurs, allez voir ce qu'ils font respectivement, ils peuvent très bien vous le montrer. Oui, sur l'Apple Watch, effectivement, vous êtes extrêmement critiques. Bon, allez, on passe à la rubrique en bref. Donc, je vais les enchaîner un petit peu vite, les news, mais n'hésitez pas à me couper et à y réagir. Donc, ça sert aussi d'enchaînement avec ce qu'on vient de dire. La production d'iPhone, des conditions de travail ont été dénoncées chez Foxconn, qui aurait employé un taux notamment de près de 50% d'employés avec des contrats saisonniers, d'étudiants, de CDD ou d'alternance, d'équivalent d'alternance là-bas, ce qui a été pointé du doigt par les ONG et ce qui a d'ailleurs a été un peu reconnu par Apple, en partie, donc il y a des éléments sur lesquels eux ne sont pas d'accord, notamment l'absence d'équipement de protection qui aurait pas été donné à ces personnes-là, mais en tout cas, il semble y avoir une prise de conscience, une reconnaissance de la part d'Apple et de Foxconn sur le sujet. Ils ne sont pas en train de défendre bec et ongle l'indéfendable, et c'est intéressant de le garder à l'esprit et de voir que c'est surveillé. Big Bang annoncé pour les extensions Safari. Alors, si vous utilisiez macOS, vous avez commencé peut-être à entreapercevoir les difficultés qu'il y avait à utiliser certaines extensions qui étaient disponibles auparavant en un clic sur des sites web. Désormais, il faut passer par une application. Et malheureusement, il y a plein de services qui ont pignon sur rue sur les navigateurs qui sont pas encore prêts. Et pourtant, ça fait un an qu'Apple les a prévenus et force est de constater qu'ils sont pas encore en ordre de marche. Notamment Pocket, qui est un service que j'adore d'enregistrement d'articles hors ligne pour les lire sans mise en page, sans contenu enrichi par la suite, dont j'ai largement parlé à d'autres occasions, qui sont pas prêts. C'est bizarre et en même temps, je me demande s'il n'y a pas là aussi une vision d'ensemble, parce qu'il y a un truc qui me manque sur iPad pour le navigateur, je ne sais pas si c'est ton cas Léo, qui est un power user maintenant de l'iPad, c'est les extensions sur Safari. Est-ce que ça te manque au quotidien ou finalement tu t'en passe bien sur iPad, j'entends.
J'utilise Safari et même sur l'ordinateur, en fait, j'ai l'impression que les extensions, ça a jamais été le point fort de Safari. Jamais trop compris comment fonctionnait leur système. Il est quand même extrêmement fermé. Donc, en fait, je crois que j'ai installé une ou deux extensions et pas plus que ça. Donc, non, quand je suis sur l'iPad, ça me manque pas du tout.
Bon.
Mais en même temps, tu sais, ça va dans la lignée des choses. C'est un bordel incommensurable et les extensions qu'on peut avoir dans les autres plateformes et ça amène plein d'enjeux de sécurité. Vous n'avez pas idée. Il y a des choses qui ont été retirées du store des plus grands marchands parce qu'il y avait des problèmes, des enjeux de sécurité. Là, Apple ne dit pas qu'il va arrêter les extensions. Apple resserre un peu les mailles. Ça prend un abonnement pour les développeurs. Je trouve que c'est sain dans un écosystème d'améliorer ça parce que tous les jours, c'est pas mal le logiciel que vous utilisez le plus. Alors, et c'est en plus le logiciel que vous utilisez le plus pour des données personnelles. Alors, c'est quand même assez... C'est pas anodin qu'ils le fassent. C'est triste que certains soient pas adaptés, mais j'aime ça, savoir qu'il y a comme un garde-fou dans le développement des extensions pour les navigateurs.
Oui, effectivement, c'est des portes d'entrée, hein, soyons clairs. On en a parlé d'ailleurs avec les failles qu'il pouvait y avoir sur les navigateurs. Pas que ceux d'Apple, mais notamment avec la communauté Ouïghour. Écoutez les précédents épisodes, on en reparlera sans doute dans les futurs épisodes. L'algorithme de recherche de l'App Store est pointé du doigt par certains, parce que les applications Apple remontaient diablement bien et diablement souvent dans pas mal de requêtes. Quand les gens recherchaient des requêtes qui a priori n'avaient pas grand chose à voir avec les applications que propose Apple, les applications Apple remontaient malgré tout assez souvent. Il y a eu des discussions âpres de la entre Spotify et Apple, on le sait, hein, c'est une petite guerre qui s'est installée et on continuera à suivre ce qui se passe à ce sujet-là. Il n'empêche que l'algorithme a été modifié et les applications Apple apparaissent alors moins souvent et moins bien classées sur un certain nombre de requêtes. Et ce qui est assez intéressant, c'est les communications publiques de la part des dirigeants d'Apple ne disent pas du tout qu'il y avait une erreur, mais simplement que l'algorithme a été amélioré. Ils ont même, disent-ils, choisi de se coller un handicap pour que ça aide les développeurs tiers. Et ils terminent EDQ en disant « Nous faisons des erreurs tout le temps, nous sommes heureux de l'admettre. » Mais ce n'était pas une erreur, précise Fitchler.
Ils sont trop forts.
Là, c'est un petit peu les moments où on a de la peine à défendre Apple. Est-ce que vous êtes capable de les défendre mieux que moi là-dessus ?
Non, mais il y a pas à défendre. Moi, j'en ai un peu marre de cette espèce d'abus de position dominante dont use aussi, par exemple, Netflix. J'en ai un peu marre quand je vais sur l'accueil de Netflix de voir que des productions Netflix original partout. Donc, c'est bien qu'il y ait ce genre de polémique et qu'ils fassent des modifications à ce niveau-là.
Dans le cas de Netflix, tu verrais quoi ? Tu verrais le fait qu'ils mettent en avant des contenus qu'ils mettent à disposition mais qui ne sont pas produits par Netflix ?
En fait, il suffit de se rendre un petit peu sur l'accueil Netflix. Moi, je vois que du Netflix original. Si tu vas sur l'application, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a trois quarts de l'écran qui est pris par une bande-annonce d'une série Netflix que seules les séries Netflix peuvent afficher sur l'application. Ensuite, tu vas avoir des mini-teasers de prochaines productions Netflix. Ensuite, tu vas voir que une catégorie programmes originaux Netflix et après, tu vas pouvoir voir d'autres programmes. Moi, ça me dérange un petit peu cet abus.
Léo, est-ce que tu as Prime, Prime Vidéo?
J'y vais jamais, mais je l'ai, oui.
Si ça te fait rebrousser les poils des jambes, Prime, c'est pire. Prime, c'est incroyable. T'as des preloads au début de tes séries maintenant. Toutes les émissions en Prime sont toujours en avant de tout ça. Ils ont même l'odieux de rajouter des espèces de banderoles, tu sais, qu'on pense que c'est écrit assez petit, qu'on voit que c'est Prime, mais c'est juste distinctif pour que tu les remarques des autres. À quelque part aussi, ils sont chez eux.
Bien sûr.
Ils ont le droit.
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on invente la neutralité du net, etc. C'est quand on va sur Google, on aime bien que ce soit neutre quand on fait une recherche. Donc, je pense que ça devrait s'appliquer à chaque service.
Mais Internet est foutu, je l'ai vu dans une vidéo.
Moi aussi, on en reparlera peut-être. Et dans le cas d'Apple TV+, attendez-vous à ce qu'à mon avis, ils vous recommandent beaucoup de contenus produits par Apple, hein, en plus. Un nouvel iPhone SE en 2020. Alors, j'aime bien quand on lance des paris avec Léo, on va le faire aussi avec Matt sur ce qui va sortir et ce qui va pas sortir, notamment les rumeurs Apple. Un iPhone SE, donc low cost avec une petite diagonale d'écran, arriverait en 2020. Est-ce qu'on, oui ou non? Non, Léo.
Non.
D'accord, Matt.
Non.
Bon, tant pis. Je vais peut-être avoir plus de chance avec un autre pari, le retour de Touch ID en 2020. Moi, j'ai tendance à dire non aussi, mais peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi.
Touch ID n'a jamais disparu. Touch ID est toujours présent sur les MacBook.
Effectivement. Mais retour sur l'iPhone, précisons-le.
Soyons précis.
En plus de Face ID, du coup.
Non.
T'y crois pas ?
Non, j'y crois pas, non.
Matt ?
Non. Quand on utilise l'équivalent de Face ID sur Microsoft Hello, quand on utilise des choses de reconnaissance faciale, ou même Microsoft fait du passwordless avec de la voix maintenant, j'ai de la difficulté à croire que la biométrie digitale a encore un avenir, parce qu'il y a des choses un petit peu moins visibles qui apparaissent et qui sont des fois beaucoup supérieures pour reconnaître les gens. Alors, j'y crois pas.
Et en tout cas, Apple dit que c'est bien parti pour rester. Et ils disent que ça continue à être utilisé. Évidemment, ils confirment pas le fait que ça reviendrait sur l'iPhone. Moi, j'y croirais beaucoup sur une Apple Watch, par exemple, parce qu'on est toujours obligé, parfois, selon comment on utilise notre Apple Watch le matin, de remettre un code. C'est super relou. Je verrais bien un Touch ID.
Mais au final, quand tu déverrouilles ton iPhone, donc avec Face ID, l'Apple Watch se déverrouille également.
Ouais, effectivement, ouais. Mais c'est très souvent que je ne prends pas mon iPhone et que je prends juste ma montre et que j'aimerais bien avoir 2-3 infos au premier coup d'œil. Bon, c'est un caprice. Hein. Vous avez compris qu'on est dans une émission de fanboy, attention ce soir. Ce qui n'est pas une Apple TV, ce sont les nouvelles Fire TV d'Amazon qui sont sorties, avec des évolutions qui sont plutôt pas mal venues, notamment une version Fire TV 4K. Alors pour ceux qui connaissent pas les Fire TV et surtout les Stick Fire TV, ce sont des espèces de clés HDMI que vous mettez derrière une télé et vous avez une télécommande qui vous permet de rattacher ce dispositif pour en faire l'équivalent d'une Apple TV, mais par Amazon, et en sachant aussi qu'ils proposent là, mais je crois pas que ce soit dispo en France pour l'instant, mais le Cube, donc c'est une petite boîte Amazon qui vous permet aussi d'interagir, mais là en l'occurrence, la reconnaissance vocale se fait en local, donc vous n'avez pas l'envoi de votre voix sur le web, ça tombe à point nommé cette histoire. Matt, peut-être ?
Oui, écoute, fanboy d'Amazon en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu en Europe, mais ils arrivent avec une barre de son Nebula qui intègre Alexa, qui intègre l'écosystème Fire TV, et vous allez avoir une qualité de son épouvantable. Alors, ils sont capables de marier dans un produit un écho. Un Fire Stick et Alexa dans un seul et même produit. Je trouve vraiment ça chouette. Les prix sont chers. Hein. Par contre, Nebula est aux alentours de $300. Fire Cube est aux alentours de $150. Le Fire Stick est quand même le produit d'appel le plus intéressant. Il est intéressant pour deux trucs. D'abord, l'ergonomie de la manette, elle est vraiment chouette. On est encore dans l'idée Apple. Dans l'idée de la simplicité, dans l'idée d'être un peu plus travaillé. Et évidemment, il y a elle aussi le micro directement pour commander des films directement dans l'écosystème d'Amazon. Pour le coup, il y a encore beaucoup d'Android télé, mais ici, ce que je vois beaucoup de gens dans mon entourage, hein, c'est pas scientifique, Fire Stick est en train de prendre le marché en ce moment parce que d'une part, ça rallie l'écosystème. Il faut que tu aies pratiquement un écosystème et Amazon, Amazon Prime, Amazon Photo, Amazon Vidéo. Et puis là, tu peux mettre Netflix, tu peux mettre plein de trucs, tout ça pour moins de 50-60$. Vraiment un produit super intéressant puis bien fait. Et le seul problème, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes les applications Android dessus. C'est un écosystème fermé aussi, mais c'est quand même vachement bien fait. Puis ils ont enfin fait la paix avec Google et on a maintenant le retour de YouTube sur les sticks. Alors ça, c'est cool.
C'est la fête des transitions. Vous m'offrez à chaque fois un terrain génial. Google, qui a teasé sur le concurrent, on va dire, de l'Apple Arcade, puisque Apple l'a présenté pour le coup en premier, le Play Pass, qui serait en gros le même principe. Hein, ce serait un abonnement à $4.99. Le prix avait fuité, qui vous permettrait d'accéder aussi à une collection de jeux. Bon, ça se tient, hein, c'est assez cohérent qu'il le propose aussi. Est-ce que la concurrence du côté de l'iPhone passera par les Huawei ? En tout cas, on sait à quel point ils sont embêtés en ce moment avec l'utilisation potentielle d'Android version Google. On disait dans le dernier épisode, et ça s'est confirmé par certaines rumeurs, qu'il pourrait y avoir la possibilité d'y avoir des Huawei qui seraient livrés avec Android, mais sans les services Google, mais qu'on pourrait les rajouter facilement nous-mêmes. C'est vrai que ce serait un beau pied de nez, je trouve, à cette guerre commerciale. Et en tout cas aussi, le plan B qui pourrait être Harmony OS, qui continue à fleurir dans les rumeurs qu'on voit passer. Donc peut-être aura-t-on droit à un Harmony OS qui est près de Huawei à l'avenir. Des petits mots aussi sur le Samsung Galaxy Fold qui est en vente là, très bientôt, hein, on n'y croyait plus, mais si, il arrive dans sa version qui a été corrigée, alors notamment le film de protection que les testeurs retiraient pensant que c'était un film de protection classique mais qui est essentiel au fonctionnement de l'appareil, et puis le châssis qui prenait la poussière. A priori, ça a été corrigé. Ça va être il va être possible de le commander toujours au tarif de 2020 €. Par contre, il y a de commercialiser avec une espèce de d'assurance de la part de Samsung pour entretenir l'appareil. Donc ça va être intégré à l'achat de l'appareil. Et par contre, ça va être aussi une version limitée parce que là aussi, les rumeurs indiquent qu'il y aurait une version itérative du Galaxy Fold qui était déjà en préparation, hein, mais qui arriverait très vite. Et donc, il n'y aurait pas une fenêtre de tir de commercialisation du Galaxy Fold pendant très longtemps. Je crois que c'est quelque chose qui t'a bien plu, Léo, le Galaxy Fold, par certains aspects, peut-être pas par l'appareil en tant que tel, mais par la promesse qu'il y a.
Oui, complètement, ne serait-ce que la prise de risque que je trouve quand même un minimum courageuse. Je sais pas, ça m'intéresse, le smartphone pliable. Je lui vois pas un avenir précis, mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Et c'est quand même un beau bijou, je trouve, cet appareil. Donc, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus pour voir si vraiment ça semble fragile, etc. De ce qu'on m'a dit, non. Donc oui, c'est un produit. Je me vois pas spécialement l'acheter pour mon usage personnel, voire pas du tout. Mais en tout cas, le tester, mettre la main dessus, ça m'excite beaucoup plus, par exemple, que les nouveaux iPhones, même si les nouveaux iPhones, eux, seront mon smartphone de tous les jours.
Notre côté technophile, enthousiaste et curieux fait qu'évidemment, on aurait tous envie d'avoir un Galaxy Fold entre les mains et l'utiliser quelques heures, ça c'est clair. Une annonce d'ailleurs hein, qui peut paraître être positive, mais qui moi me fait un peu froid dans le dos, c'est qu'il y aurait des centaines d'applications populaires qui seraient déjà optimisées pour le Galaxy Fold selon Samsung. Bon, moi, ça me fait toujours un petit peu peur quand on me dit ça. Ça veut dire quand même qu'il reste un très 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 gros travail pour énormément de développeurs pour s'adapter à l'appareil, donc c'est pas très encourageant, je trouve, mais enfin bon, on le verra comme on le veut. On parle souvent avec Matt de détox technologique, d'autres manières d'appréhender notre vie. C'est aussi un truc que tu fais dans tes vidéos, Léo. Je voulais juste mentionner la disponibilité du Light Phone, qui est un écran e-ink et qui est extrêmement limité, puisque, alors certes, il vous permet de téléphoner, certes, il vous permet d'envoyer des SMS avec l'écran e-ink qui est tactile. Vous avez 2-3 fonctions, dont la possibilité de mettre une alarme, hein, qui utilise un radio-réveil aujourd'hui, tout le monde ici son smartphone, calendrier, de la musique, et c'est tout. Il y aura peut-être la possibilité pour les développeurs de convaincre le Light Phone que l'application mérite d'être présente dessus, mais ils vont être extrêmement drastiques sur ce qui sera possible de faire dessus. En tout cas, il est disponible. Moi, je me demandais juste quelle appréhension vous aviez de ce type d'appareil, parce qu'on est assez régulièrement en train de dire qu'il faut savoir se couper de nos appareils. Est-ce que c'est une bonne solution selon toi, Léo?
Acheter un 3310, j'ai regardé, qu'est-ce que c'est cher pour envoyer des messages, pour passer des appels.
J'ai pas dit le prix, non? J'ai pas dit le prix, je me rappelle plus, j'ai vu le truc passer, on est à quelques centaines.
$30 par mois.
Ouais. Combien?
$30 par mois.
$30 par mois.
Mais à l'achat, ouais, je crois que c'est $210 ou je sais
ouais,
plus,
c'est
un truc
voilà,
comme ça.
Hein. Comme ça ouais. Ouais, donc acheter un Nokia 3310 avec un petit forfait avec lequel vous pourrez envoyer des messages, c'est moins joli. Ça fait moins effectivement Black Mirror ou ce genre de choses. Mais vraiment, mettez pas votre argent là-dedans. Non, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, quand j'ai vu le prix, je me suis dit juste pour cette petite fonction, je mettrai jamais ce prix-là. D'autant que je pense pas que ce soit un smartphone de tous les jours. C'est un smartphone que vous prenez peut-être un week-end quand vous partez à la montagne ou quelque chose comme ça.
Ah oui.
Là, effectivement, vous avez l'autonomie, vous n'allez pas passer votre week-end sur votre téléphone, etc. Mais oui, je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est.
Matt, tu partages, c'est pas un argument convaincant.
Moi, j'ai un peu de difficulté à pas faire partie du mouvement dans le sens où je préfère largement expliquer à mon enfant que ça peut avoir des dangers de ne pas l'utiliser trop, ou même moi, hein, m'éduquer là-dessus. Là, je parle de mon enfant, mais moi, je suis complètement débile sur mon utilisation, mais je le sais et je préfère beaucoup plus le savoir de me réguler moi-même que d'essayer d'avoir des œillères technologiques qui m'empêchent, qui vont me frustrer en bout de ligne et qui vont faire que je vais être à part des autres, je pourrais pas recevoir de WhatsApp, je pourrais pas recevoir des Messenger, je pourrais pas savoir. Tu comprends que j'aime l'idée d'avoir une technologie simple, ça je suis correct, mais pour des débutants, hein, pour quelqu'un qui connaît rien, je trouve que ça serait qui a jamais connu un téléphone intelligent, je trouve que ça serait intéressant, mais pas pour reculer. Pour moi, c'est un recul incroyable. Puis si tu en as vraiment besoin, ben c'est parce que tu as des plus gros problèmes que ça, je pense, tu n'arrives pas à te contrôler.
J'espère même que ça ne va pas se vendre beaucoup, parce que d'un point de vue écologique, ce n'est même pas forcément satisfaisant non plus d'aller dans ce type de
plus,
condition.
Ouais.
Alors pour ceux qui continuent à téléphoner, et il y en a, hein, et bon, bah, malheureusement j'en fais partie, parce que ça m'arrive d'avoir des services sur lesquels on est obligé d'appeler, taper 1, taper 2, taper 3, notamment bizarrement quand on veut résilier par exemple un abonnement internet, c'est toujours très compliqué, il faut passer par des serveurs vocaux où il faut taper la suite magique secrète de bons numéros, et on peut passer du temps à attendre. Et ben, Google Assistant pourrait attendre pour vous dès le Pixel 4, en gros vous appelez, et puis quand vous sentez qu'il y a la musique d'attente qui va s'installer, vous lui dites, vous lui donnez une instruction et bah, du coup vous pouvez passer à autre chose et il va vous faire un petit avertissement quand il y aura un vrai humain qui va répondre à la place de la musique d'attente. Bah, ça fait partie, c'est tout con, hein, mais ce type de technologie qui se base pas sur le futur, parce que je suis pas certain qu'on continuera beaucoup s'appeler dans le futur, mais qui sont diablement convaincantes. On a tous été dans le cas, vous, on était face à un serveur vocal pénible. Vous aimeriez voir ça sur votre iPhone ?
Ah oui, mais qui n'aimerait pas ça? Oui, effectivement, j'aime bien Google. Ils font des Google Assistant, etc. Ils commencent à faire des choses très très intéressantes. On l'a vu notamment le fait que Google Assistant puisse prendre un rendez-vous pour nous. Donc ça, je sais pas où ça en est dans le développement, mais on commence à avoir des technologies très très intéressantes de leur part. Donc les smartphones sont toujours pas très jolis chez Google, mais en tout cas pour ce qui est du software, c'est intéressant.
Parfait. On parlait régulièrement de Wunderlist il y a ça quelques années parce que c'était une application de gestion de liste de tâches. On l'utilisait même avec Matt. Enfin, moi, je l'utilisais en tout cas un bon moment, qui était vraiment top. Et ça a été racheté par Microsoft. Il y a une nouvelle version de Todo qui est le nom de ce qui a succédé à Wunderlist et qui est développé désormais par Microsoft, qui est dispo. Dans cette version, il y a d'ailleurs des messages qui remontent assez souvent. Si vous utilisez encore Wunderlist, utilisez plutôt Todo. Enfin, en gros, migrez vos données, quoi. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a plein de personnes qui continuent à aimer l'ancien Wunderlist, l'ancienne version, avant qu'elle ait été remplacée par Todo de Microsoft, au point que son fondateur à Wunderlist voudrait carrément racheter l'application à Microsoft. Il a d'ailleurs communiqué par Twitter sur le sujet, et il était très sérieux, disait-il, sur le fait qu'il voulait absolument racheter l'application pour pas qu'elle soit détruite par Microsoft et qu'elle soit effacée. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que je me demande s'il serait pas quand même plus simple pour ces personnes-là qui ont développé ce type d'application d'en recréer une et d'en recréer presque une mieux. J'arrive pas très bien à comprendre les enjeux commerciaux qu'il peut y avoir derrière ce type de choses.
Tu sais, il y a des contrats lorsque tu vends des compagnies, maintenant il y a des contrats de non-agression, là, c'est-à-dire que tu peux pas repartir principe à côté. Alors ce qui arrive bien souvent, puis on l'a vu avec le fabricant de la montre, le français, je me rappelle plus le nom, quand Nokia avait racheté WeThings. Exactement. Le père de WeThings a vu ce que Nokia en a fait, puis il a voulu le racheter, comme un peu les gens au niveau du téléphone Nokia. Moi, je trouve ça sain. Je trouve que c'est dans une lignée intéressante des gens qui fabriquent des choses, qui ont une philosophie sur le produit, puis qui veulent le conserver. Todo, c'est chouette, hein? Si vous n'avez pas utilisé, les gars, vraiment chouette. Sur mobile, ça va très, très bien. On peut partager ça avec des gens. C'est maintenant l'outil de tâche, le nouvel outil de tâche de Outlook en entreprise, là, avec des versions business. C'est franchement intéressant ce qu'ils ont fait. Ils sont repartis de zéro. Pour la petite histoire, Microsoft a acheté Wunderlist et ils ont très bien dit qu'ils achetaient l'équipe de développement et pas le produit. Et après ça, l'équipe de développement a refait Todo avec toutes les connaissances qu'ils avaient acquises de Wunderlist. Il y a des erreurs qu'ils n'ont pas faites probablement dans le back-end, dans le développement. Et ben, c'est très bien intégré. Ça commence à être très bien intégré dans l'écosystème d'Office 365. C'est vraiment chouette ce qui arrive. Et puis, ben, l'autre côté, l'aspect du développeur qui a fait quelque chose, qui veut le récupérer parce que c'est son enfant, je trouve ça bien pour l'histoire de l'informatique, qu'il y ait des gens qui reprennent des trucs. On a déjà vu ça des fois.
Vous qui avez utilisé Léo et Matt, Léo j'en suis sûr, Matt j'ai un doute, mais iOS 13 en bêta, Matt tu l'as utilisé.
Oui, absolument.
Je me demandais comment vous aviez vécu, parce que j'ai réussi à ne pas l'installer de mon côté, comment vous aviez vécu les avertissements dont tu nous avais déjà parlé, Léo, quand on avait fait un précédent épisode de Tech Café ensemble, qui informent sur la géolocalisation régulière. Est-ce que tu peux peut-être nous retoucher quelques mots de ce que c'est que cette fonction qui arrivera dans iOS 13 dans quelques jours maintenant, et nous dire si à l'usage c'est pénible ou pas, et notamment pour le Bluetooth aussi?
Ouais. Eh ben, c'est très simple. En fait, quand vous utilisez une application comme Foursquare ou par exemple Philips Hue, qui va regarder votre localisation pour allumer les lumières quand vous approchez de chez vous, il va regarder de temps en temps, il va regarder votre localisation. En gros, Apple, enfin l'iPhone enregistre en fond tous les moments, tous les lieux que l'application enregistre, et de temps en temps il va vous faire un rappel en vous disant voilà, telle application a enregistré tous ces lieux, et vous avez une carte en fait avec toutes les zones qui sont notées en bleu où l'application a enregistré votre localisation. Et finalement c'est pas si je trouve pas que ce soit vraiment intrusif.
Ouais.
Pas du tout, c'est vraiment pas gênant, il le fait de temps en temps, alors c'est quand même assez régulier mais c'est pas non plus tous les jours, et c'est limite un peu rassurant en fait. À chaque fois que vous voyez ça, vous vous souvenez, ok, cette application regarde ma localisation, et du coup vous pouvez aussi voir à quelle fréquence en fait selon les lieux qu'elle a enregistré. Donc pas du tout, j'ai pas du tout été gêné. Je sais pas si des gens, ça va pas faire peur à quelques personnes, etc., et ils vont tout désactiver, mais en tout cas moi personnellement ça m'a pas du tout gêné, au contraire.
Ça apporte de la pédagogie. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en termes d'interface, il y aurait peut-être eu moyen de trouver autre chose qui ressemble plus aux notifications qu'on a l'habitude d'avoir, une notification persistante d'une couleur un peu différente, plutôt qu'un gros pop-up comme ça au milieu de l'écran, à voir si ça pourra pas évoluer. En tout cas, il y a quelqu'un qui est pas content par rapport à ça, c'est Facebook. Facebook, ça les embête qu'il y ait ce message.
C'est bizarre, ça.
et ils encouragent leurs utilisateurs, enfin les utilisateurs d'iOS 13, à garder la géolocalisation en continu, hein, parce que forcément, ça aide à avoir des pubs mieux ciblées, ça aide à mieux utiliser les fonctions d'information auprès des lieux de ses amis. Et donc, effectivement, il faudrait activer plus souvent cette option. C'était assez rigolo.
Alors, j'ai un conseil très sérieux par rapport à ça. Quand Facebook vous demande un truc, faites l'inverse.
Ouais, en l'occurrence, ça marche très bien, effectivement. Et à mon avis, ça va jouer son rôle pédagogique. On continue avec Facebook, avec le SFS, le scandale Facebook de la semaine, qui date de quelques jours maintenant, hein, mais avec la collecte par une entreprise de 419, le chiffre est impressionnant, millions de numéros de téléphone, qui les stockaient surtout sur un serveur qui était accessible en ligne, sans protection, et donc tout cela était librement accessible. Il y a eu moins de remous autour de cette info dans l'actu tech, parce que je pense qu'on est d'une part un peu habitué à voir ces gros chiffres de fuite de données, et puis je pense que les gens s'habituent malheureusement à ce genre de problème. Pour autant, le chiffre est édifiant, et évidemment tout cela est issu des anciens fonctionnements, et quand je dis ancien, c'est pas très ancien, c'est de l'ordre de quelques mois de Facebook qui permettait encore ce genre de choses. Évidemment aujourd'hui c'est plus compliqué, même si c'est pas encore complètement satisfaisant. Et puis un comble quand même, la Russie accuse Google et Facebook d'avoir diffusé des publicités de désinformation et de propagande durant les élections qui ont eu lieu donc en Russie, évidemment. J'ai trouvé ça assez cocasse de voir que la Russie dénonçait ça. Ce qui, ça se trouve en plus, est peut-être le cas, je veux dire, faut pas être complètement naïf en s'imaginant qu'il y a juste les grands méchants de Russes qui interviennent dans les belles démocraties occidentales, point barre, hein. J'imagine qu'il y a plein d'autres actions en retour, et pourquoi pas, il pourrait y avoir des actions de la part d'entreprises américaines, mais j'ai du mal à penser que ça puisse être Google et Facebook, et que ce soit pas des cellules isolées américaines. J'ai du mal à y voir clair là-dessus. Et aux États-Unis, une enquête géante qui est en train de se mettre en place pour étudier de plus près le fonctionnement de Google et ses services, qui est accusé de monopole. 50 procureurs ont lancé l'enquête, et ça couvre beaucoup de services de la part de Google. Ça, c'est un sujet qui est un peu latent et qui peut-être fera l'effet d'une bombe dans quelques mois, quand des conclusions seront remises et surtout des décisions. Un dernier mot aussi, on faisait une petite info dans le dernier Tech Café sur le fait que Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, s'était fait pirater son compte Twitter parce qu'avait été exploité la fonctionnalité d'envoi de tweets par SMS, et cette fonctionnalité a été depuis désactivée, comme quoi il était trop compliqué.
Envoi de quoi ?
Alors, on pouvait envoyer des tweets en utilisant des SMS. Une fois qu'on avait rattaché son numéro de téléphone à Twitter et qu'on envoyait des SMS à un certain numéro, tu pouvais tweeter par SMS. C'était d'ailleurs la raison historique pour laquelle, au départ, on pouvait envoyer des tweets que de 140 caractères. C'est que c'était limité par le format
Les SMS, c'est comme iMessage, mais pour ceux qui n'ont pas des iPhones.
Ok, d'accord. Ah, c'est les bulles vertes, c'est ça?
Oui, c'est ceux qui
n'ont pas tilté. Oh. Okay. C'est horrible. Tu repousses à chaque fois les limites de la mauvaise foi. C'est pas bien.
C'est fou. J'ai jamais entendu parler de cette fonction.
De SMS ou d'envoi de tweets par SMS? Attention à ce que tu veux dire. C'est pas bien. Bon, il y a beaucoup trop de mauvaise foi sur cette fin. En bref, il est grand temps de passer au bonus. Matt, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode de Tech Café?
Je voudrais faire un site que j'utilise dans ma veille qui est super intéressant. Ça s'appelle tout simplement Outils de la veille qui vous permet de découvrir des services qu'on ne pouvait pas connaître. Pardon?
C'est pas des outils de vieille. C'est des...
Non, c'est... non, c'est des outils de veille. C'est vraiment un site intéressant qui vous fait pour lequel vous pouvez découvrir des services vraiment chouettes comme exemple RSS Mailer que je ne connaissais pas. Si vous avez des flux RSS que vous voulez recevoir directement par mail, c'est un usage intéressant. Il y a toutes sortes de belles petites découvertes, des belles pépites que je partage des fois sur Internet et même pour ceux qui veulent connaître des services, automatiser des trucs ou tout simplement qui sont dans l'univers des médias sociaux ou qui sont community manager ou même tout simplement dans la tech, il y a vraiment des belles pépites de services Internet. Relativement souvent, ils sont payants. Alors, c'est des outils pro, mais c'est vraiment des belles pépites. Et moi, c'est un site que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Outils Veille, outils avec un S, veille, pas vieille, .com.
OK, cool. Tu avais un autre bonus en plus?
Ben oui, j'ai tweeté ma Roco 2019 parce que vous devez acheter comme produit Apple et je les ai classés dans deux catégories, si vous êtes pro ou pas pro. C'est un tweet. Vous irez voir ça. Grosso modo, les gens normaux vont avoir du R et les pros vont avoir du pro. Vous comprenez un peu l'idée. Vous irez dans les notes de l'émission de Tech Café.
Ouais, je me posais la question. Est-ce qu'un iPhone XR, enfin 10R, était plus intéressant qu'un 11 vu qu'il y avait quoi? Il y a 100 euros d'écart, 100 dollars. Je me suis posé la question, mais c'est intéressant en tout cas. Merci Matt. Léo, est-ce que tu es venu avec un bonus?
Alors, pour la première fois de l'histoire de ce podcast, j'ai fait mon travail et je suis venu avec un bonus.
Quelle honte.
J'ai donc choisi l'originalité pour cette fois, à savoir le Galaxy Note 10. Non, je déconne, l'Apple Watch Series 5. parce que vraiment, j'ai un coup de cœur, moi, de plus en plus présent pour l'Apple Watch. C'est un produit que je recommande vraiment. Alors, il faut le tester, je pense, un petit peu en Apple Store, etc. Moi, c'est quand je l'ai testé en Apple Store que je suis tombé amoureux de ce produit avec la première Watch. Je crois que c'était la série 1, c'était pas la série 0. C'est vraiment un produit que je recommande parce que il va pas changer votre vie, mais presque. En fait, il faut arrêter de voir l'Apple Watch, la montre connectée, comme un truc comme un vulgaire écran en plus. Je pense pas qu'il faille la voir comme quelque chose qui vous connecte encore plus. Au contraire, c'est quelque chose qui vous déconnecte en quelque sorte de votre smartphone parce que vous êtes plus là à tout le temps prendre votre smartphone à chaque fois que vous avez une notification à le sortir de votre poche. Parce qu'une fois que vous l'avez en main, votre smartphone, en fait, ça devient naturel de l'utiliser. Vous l'avez en main, bon bah autant en faire quelque chose. Alors vous le déverrouillez, vous allez sur Twitter, sur Facebook, etc. Et vous avez perdu trois quarts d'heure. Quand vous avez une Apple Watch, c'est totalement différent. Vous avez juste à lever le poignet, à regarder un petit peu votre notification. La plupart du temps, c'est pas intéressant. Vous passez à autre chose. Donc je recommande vraiment une montre connectée et particulièrement pour le coup une Apple Watch. Si vous pouvez prendre la série 5, foncez. Plus intéressante quand même que la série 4, mais sinon la série 3, comme on le disait, je crois elle est à 229 €, donc c'est un tarif qui est extrêmement intéressant pour commencer.
Moi, je voulais faire le troll du troll. Finalement, c'est quand même plus cher qu'un iPhone, une Apple Watch, pour si on veut se déconnecter de son smartphone.
Alors oui, mais tu noteras que c'est chiant à mettre au poignet.
Ok, bon, j'y arrive pas, c'est pas drôle. Allez, de mon côté, un petit bonus. Je profite toujours d'un abonnement, grosso modo d'un an offert de Nintendo Switch Online. Sur les derniers jours, il y a eu dispo l'émulateur Super NES sur la Switch avec toute une série de jeux, d'ailleurs dont Star Fox, dont Zelda, enfin plein de petits trucs qui font plaisir à revoir, dont on se sert pas des semaines, hein, mais qui sont toujours rigolos à utiliser. Sauf que il y a quelque chose qui à la fois m'a fait très plaisir et qui après coup m'a un peu déçu. Tu sais, c'est un petit peu comme ce type de sentiment qu'on a quand on pirate un truc qu'on n'arrive pas à trouver ou qui coûte très très cher. Et en fait, une fois que tu l'as, tu trouves que c'est pas terrible. Et ben, j'ai utilisé la fonction de replay qui est intégrée à cette application pour jouer à Super Ghouls and Ghosts. Donc pour ceux qui connaissent pas Super Ghouls and Ghosts, c'est une espèce de jeu, j'ose même pas dire de plateforme, mais hyper difficile, où un personnage lance avec son arme des projectiles à destination de zombies, de gobelins dans différents niveaux. Et j'ai été marqué par ce jeu quand j'étais petit parce qu'il est extrêmement difficile. En gros, moi j'arrivais à faire péniblement les 2-3 premiers niveaux sur, je crois, une dizaine de niveaux. Et pourtant, j'arrêtais pas d'y jouer et il a quelque chose de captivant. Pourtant, il est horrible. Il est vraiment extrêmement sévère. Et il y a une fonction qui tue tout. C'est la fonction donc de replay qui fait qu'en gros, quand tu perds, tu peux revenir à quelques secondes avant, ou plus longtemps si tu veux, mais surtout quelques secondes avant. Ce qui fait qu'en gros, ce jeu, il devient d'une facilité complètement déconcertante et que je l'ai terminé en à peu près une demi-heure. Alors que j'ai dû passer mais des dizaines d'heures quand j'étais plus petit sur ce jeu. Et j'ai terminé en 30 minutes. Et donc, j'étais très content. Et en fait, une fois que j'ai vu la fin, bon, d'une part, la fin, elle est complètement nulle, parce qu'en plus, ça te relance le jeu avec une autre, un autre objectif, mais en gros, c'est exactement les mêmes niveaux, donc c'est très déceptif. Et en plus, j'ai eu un sentiment de malaise qui a été de me dire, bah tiens, j'avais hacké le jeu en utilisant une fonction qui n'était pas noble, et du coup, j'ai eu un peu honte. Donc voilà, je voulais vous partager à la fois cet enthousiasme de départ et ce côté honteux d'avoir triché avec des fonctions pourtant officielles, hein, disponibles sur la Switch légalement, pour avoir terminé ce jeu. J'ai un peu honte.
Alors, tu m'as fait penser à un bonus exclusif qui n'est pas un produit d'Apple. Je vous conseille fortement le jeu Bacon, qui est disponible et sur Android et sur iOS, pour faire plaisir à tout le monde. C'est un jeu qui est un peu débile, mais qui est exceptionnel et qui en plus est très dur. En gros, vous avez une poêle sur laquelle une main va jeter un morceau de bacon, une tranche de bacon, et vous devez faire rebondir ce morceau de bacon pour l'emmener sur un objet. Il y a, je crois, une centaine de niveaux. Vous devez faire tenir le bacon sur la Joconde, sur une pile de pancakes, sur le drapeau de la France. Enfin, c'est que des choses comme ça. Et je vous invite vraiment à tester ce jeu, Bacon the Game. Il est exceptionnel.
Par Philippe.
Mais moi qui essaye de changer d'alimentation, d'être un peu plus vegan, là, est-ce qu'il y a la version tofu?
Alors, malheureusement, non, parce que je crois que la physique du tofu est moins. C'est peut-être moins au jeu, mais, ouais, mais je vais leur en parler.
Bacon de Philippe Stollenmeyer, si j'ai bien compris, et c'est gratuit sur iOS et sur Android. Il y a un mini-jeu dans Mario Party d'ailleurs où tu dois orienter ton Joy-Con pour faire revenir les 6 faces d'un cube de viande. Ça me fait penser spontanément à ça, mais je vais tester en tout cas, je vais regarder. Merci beaucoup Léo pour ton bonus, merci aussi à toi Matt, et merci beaucoup à tous les deux d'avoir consacré un petit peu de temps pour, mais je sais que ça vous fait plaisir, nous faire part de votre vision de ces annonces Apple. Évidemment, ça reste exceptionnel et les prochains épisodes de Tech Café retrouveront un format plus classique où on vous parlera de toutes les news de la tech sans fanboyisme, c'est promis. On va faire un petit tour pour rappeler à tout le monde où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oh, profduweb.com, profduweb.com. Il y a pas mal tous les liens pour mes podcasts. Et évidemment, si vous aimez Apple, faites un petit tour sur Apple différemment. On reprend, hein, Apple différemment, on reprend. Les vacances ont été longues et ont fait du bien. Alors, on va recommencer d'ici les prochains jours.
Bon, puis vous avez de la matière en plus, vous avez de quoi faire, effectivement. Merci, Matt. Léo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh bien, comme d'habitude, j'ai l'impression que... Léo Duff, D-U-2-F, comme la bière des Simpsons, sur YouTube, et n'oubliez pas d'acheter des AirPods. Et promis, je ne parle pas que d'Apple.
Et souvent dans les tendances de YouTube. Merci beaucoup Léo. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez avec tous les liens qui vont bien sur guillaumevendée.fr. Le site est revu, il est à peu près fonctionnel, il n'y a plus trop de bugs, il reste des vieux articles à rechancher, mais en tout cas, il est beaucoup plus, je pense, agréable pour vous, et en tout cas, moi, il me donne beaucoup plus envie d'écrire, donc tout va bien. Comme je vous le disais, je compte sur vous pour aller jeter un petit coup d'œil sur patreon.com/techcafé si vous ne l'avez pas déjà fait, pour peut-être rejoindre tous les autres supporters de Tech Café, pardon, en financement participatif. Je compte aussi sur vous pour en parler autour de vous de ce podcast et des podcasts qu'on peut produire, des contenus qu'on peut amener à diffuser, et également à déposer, si vous ne l'avez pas déjà fait, un petit avis sur Apple Podcast. On continue à les demander, mais il y en a beaucoup moins qui remontent. Est-ce la maturité d'un podcast de plus avoir trop d'avis? C'est peut-être le cas, mais je compte sur vous en tout cas pour continuer à en déposer si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café.
Salut.
Salut.